R
F I.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, compensation carbone, neutralité carbone, marché carbone, taxe carbone, bilan carbone. Le carbone obsède désormais les politiques, les entreprises, les médias. Enfin, plutôt le dioxyde de carbone, pour être précis, c'est-à-dire un atome de carbone combiné à deux atomes d'oxygène. Le CO2 est le gaz le plus présent dans notre atmosphère. Il est à la base de la vie. Chacun d'entre nous, comme la plupart des êtres vivants, respire de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone. Alors pourquoi voulons-nous l'éliminer ? Eh bien le problème, c'est que depuis 150 ans, les activités humaines et notamment la combustion des énergies fossiles comme le charbon, le gaz et le pétrole ont émis trop de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les molécules de ce gaz incolore et inodore s'accumulent à une trentaine de kilomètres au-dessus de nos têtes et elles sont les principales responsables du réchauffement climatique. Le CO2 est donc l'ennemi numéro un à contenir pour enrayer ce phénomène qui menace l'habitabilité de la Terre pour l'humanité. Quelles sont les solutions et est-ce que nous nous attaquons sérieusement au problème ? Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Alain Kersanti.
Bonjour Anne-Cécile Brun.
Vous êtes économiste et spécialiste des forêts au CIRAD. Vous êtes en duplex de Montpellier grâce aux équipes techniques de France Bleu. Alors, le dioxyde de carbone, c'est l'ennemi numéro un, je le disais en introduction.
Oui, parce que d'abord, on en émet beaucoup. Je crois qu'on est autour de 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année, à peu près en moyenne, hein, d'après les derniers chiffres. C'est surtout qu'il dure, il va rester dans l'atmosphère pendant de très longues périodes, pendant plusieurs siècles. Le CO2, ça ne se dissout pas dans l'atmosphère spontanément, ça va être repris par un puits de carbone. Un puits de carbone, ce sont des forêts ou les océans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit par la photosynthèse, soit par le travail du phytoplancton, l'océan ou les forêts ou la végétation en général vont absorber du CO2. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de CO2, ça reste très longtemps dans l'atmosphère, donc ça contribue au réchauffement climatique pendant des siècles et des siècles. Et le problème que nous avons, c'est que nos puits de carbone, c'est-à-dire les forêts et les océans, sont de moins en moins efficaces pour retirer le CO2 de l'atmosphère comme ils le font régulièrement depuis des siècles. Et donc on a un phénomène d'aggravation de la situation.
Gilles Dufresne, vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles. Avec votre association Carbon Market Watch, vous surveillez attentivement les décisions politiques prises autour du carbone parce que c'est central, hein, on l'a entendu avec ce que Alain Kersanti vient de nous expliquer, c'est central dans la lutte contre le changement climatique.
Oui, absolument. C'est un élément très important et qui requiert une coordination à la fois au niveau mondial, mais aussi au niveau européen et au niveau national. Il faut parvenir à mettre en place des stratégies, des politiques pour réduire les émissions de CO2, mais aussi d'autres gaz à effet de serre, puisque le CO2 n'est pas le seul gaz qui contribue au changement climatique et au réchauffement climatique. Et donc il y a des efforts et des dialogues, de la coopération qui a lieu au niveau international, au niveau des Nations Unies, mais au niveau aussi de l'Union européenne et des différents États membres, pour prendre ce problème à bras-le-corps quelque part et mettre en place les mesures et les politiques nécessaires pour réduire les émissions dans les différents secteurs, que ce soit l'industrie ou le transport, l'agriculture ou d'autres secteurs, puisque chacun doit parvenir à réduire ses propres émissions pour qu'au final on atteigne une nouvelle économie, une nouvelle société neutre ou en tout cas très proche du zéro absolu en carbone.
Bonjour Bernard Giraud.
Bonjour.
Alors vous êtes président et cofondateur des fonds d'investissement Livelywoods qui sont basés justement sur la régulation du carbone. J'ai envie de dire, expliquez-nous le principe de ces fonds d'investissement.
Oui, tout simplement, ce sont des fonds qui investissent dans des projets agricoles ou de reforestation au bénéfice des communautés locales. Ces fonds ont été créés en fait par de grandes entreprises qui, chacune dans leur domaine, ont des objectifs de réduction. C'est-à-dire qu'elles sont toutes engagées et sur des durées longues, hein, pour certaines atteindre la neutralité en 2040 ou 2050.
Alors la neutralité, ça veut dire
La neutralité, c'est un terme qui est évidemment beaucoup discuté, mais en gros, lorsqu'une entreprise transporte des marchandises, fabrique, utilise de l'énergie, fabrique des emballages, etc., elle doit réduire ses émissions. Donc ça veut dire une transformation profonde des processus de production, mais aussi de consommation, de distribution. Et par ailleurs, elle peut aussi compenser ce qu'elle n'arrive pas à réduire. Parce qu'arriver à zéro lorsqu'on est une grande entreprise et qu'on déplace des milliers ou des millions de tonnes, c'est évidemment un pari extrêmement compliqué. Donc les entreprises sont engagées dans une double démarche. D'un côté, réduire leurs émissions, et de l'autre, compenser. Et donc elles le font à travers des fonds comme les nôtres, qui vont utiliser les investissements faits par ces entreprises pour mettre en œuvre avec des partenaires locaux, en Afrique par exemple, des projets qui ont des impacts climatiques, mais pas seulement climatiques. Lorsqu'on restaure, par exemple, de la mangrove au Sénégal, évidemment, les populations locales plantent des arbres, mais le bénéfice pour ces populations, ça n'est pas que les arbres, c'est bien sûr bien davantage. Et ça, on pourra en parler.
Mais on le verra tout à l'heure, nous irons d'ailleurs sur un de vos projets en Inde, dans la vallée d'Araku. Bonjour Myrto Tilianaki.
Bonjour.
Vous êtes au sein de votre association CCFD Terre Solidaire. Vous êtes la personne qui suivait de près justement les décisions prises pour réguler le dioxyde de carbone. Pourquoi est-ce que les ONG sont très intéressées par ce sujet ?
On est très intéressés par ce sujet parce qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui menés notamment par deux entreprises, de projets de compensation carbone, qui vont essayer, comme a été mentionné il y a quelques instants, de compenser les émissions de différents acteurs. Nous, par contre, ce qu'on a noté avec beaucoup d'inquiétude, c'est que dans cette quête de la neutralité carbone, la majorité des efforts aujourd'hui sont mis à la compensation carbone et il n'y a pas assez d'efforts concentrés sur la réduction d'émissions des entreprises. Donc on regarde tout ça de très près.
Et vous regardez, parce que bon là, on écoutait Bernard Giraud et on ira sur le terrain tout à l'heure voir ce que fait le fonds d'investissement Livelihoods, mais vous regardez aussi de près le décalage entre ce que les entreprises annoncent et ce qu'elles font réellement sur le terrain.
Tout à fait. Par exemple, on a regardé la politique climat de Nespresso, qui dit que pour atteindre la neutralité carbone de chaque tasse de café, elle va faire 5% de réduction d'émissions pour 95% de compensation carbone. Donc on s'est rendu compte que la compensation prend une place démesurée dans le politique climat de neutralité carbone de différents acteurs et ils mettent également en place des projets de compensation qui peuvent porter atteinte aux droits humains et à la biodiversité.
Voilà, et c'est là où ça devient compliqué quand on est citoyen et qu'on se dit, alors du coup, quand je bois mon café, qu'est-ce qui se passe ? On a du mal à comprendre et c'est cela dont nous allons parler dans cette émission. Vous l'avez compris, ce n'est pas pour rien si le dioxyde de carbone cristallise autant de tensions et d'attentions. Mais que faisons-nous réellement pour réguler ces émissions ? Nous en parlons dans un instant, juste après un bilan carbone en compagnie de Benoît Dorémus.
Quand je me douche plus de 10 minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons, j'imagine un iceberg qui fond. Si je laisse ma télé en veille, je m'endors d'un mauvais sommeil. Et si mes nuits sont polissonne, j'assume pas mon bilan carbone. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Quand je passe l'aspirateur, je pense à des kilowatt-heure. Quant à mon chat qui est tout fripon, c'est un tigre en voie d'extinction. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Je mange un fruit exotique, c'est pour qu'ils repartent pas en Afrique. Une fois par an, quand je prends l'avion, je pense à l'ozone que nous avions. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre. J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Existe-t-il ce coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux.
Benoît Dorémus fait son bilan carbone dans C'est pas du vent sur RFI.
There is no planet B.
C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah 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 blah.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Net zero by 2050. Blah blah blah. Net zero. Blah blah blah. Climate neutral. Blah blah blah.
Nous parlons de l'obsession du dioxyde du carbone aujourd'hui avec nos invités, ce puissant gaz à effet de serre que nous émettons en quantité astronomique depuis 150 ans avec la combustion du charbon, du gaz et du pétrole, la déforestation, la bétonisation. De nombreux mécanismes sont apparus ces dernières années pour tenter de le réguler, à tel point que l'on voit fleurir des publicités pour des produits neutres en carbone, des incitations aussi pour compenser nos émissions, des marchés carbone entre États ou des marchés carbone carbone volontaire. Alors Gilles Dufresne, vous scrutez tout cela avec votre association Carbon Market Watch. C'est bien compliqué de s'y retrouver, hein.
Oui, en effet, c'est un système assez complexe et opaque. Il y a peu de transparence. Donc c'est très difficile pour un citoyen ou tout un chacun de vraiment comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire si j'achète un café neutre en carbone, un t-shirt neutre en carbone, une banane neutre en carbone. On voit ça un peu partout dans les supermarchés et dans les magasins. Mais finalement, quel est l'impact réel de ces produits? Il y a vraiment un problème de communication et une difficulté à comprendre ce qu'il veut vraiment.
Parce qu'en fait, c'est quoi le principe?
L'idée, c'est que une entreprise va produire un bien ou un service, et dans la production de ce bien, il va y avoir une émission de gaz à effet de serre, principalement de dioxyde de carbone, de CO2. Et au lieu de réduire les émissions associées à la production de ce produit spécifique, disons par exemple de produire un t-shirt, la production du t-shirt va entraîner des émissions, et au lieu de réduire les émissions liées à cette production, l'entreprise va choisir de payer pour réduire les émissions quelque part d'autre. Donc essentiellement, elle va payer quelqu'un d'autre pour faire le travail à sa place. Donc elle va continuer à émettre au niveau de sa propre usine pour produire son t-shirt. Et puis, elle va payer, par exemple, pour réduire la déforestation quelque part ou installer des énergies renouvelables qui remplaceraient des énergies fossiles dans un autre pays. Et dire que, voilà, en somme, finalement, moi, j'émets une tonne de CO2 et puis je paye pour réduire une tonne de CO2 quelque part d'autre. Et donc, dans la balance, eh ben, on arrive à net zéro. Et donc, ça n'a pas d'impact sur le climat. Mais évidemment, c'est une logique bien, bien théorique et la réalité est parfois différente.
Bernard Giraud, vous faites non de la tête.
Non, absolument. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer réduction et compensation. C'est clair que la priorité, c'est la réduction. C'est-à-dire que les entreprises doivent s'engager, et elles le font de plus en plus, alors différemment selon les entreprises, dans la transformation de leur cycle de production, de tous les actes consommation d'énergie, emballage, transport, etc. Ça, c'est clair. La réduction est l'absolue priorité. Maintenant, on ne peut pas demander à des grandes entreprises du jour au lendemain d'être zéro impact carbone. C'est une transformation systémique. C'est compliqué. Ça prend des années. C'est des changements, y compris dans nos changements de comportement en tant que citoyens, en tant que consommateurs. Donc, les entreprises qui font de la réduction, pour certaines d'entre elles, disent « Eh bien, pour compléter mes efforts de réduction, je vais faire de la compensation. » Et cette compensation, elle peut avoir des effets bénéfiques ou pas. Ça dépend du type de compensation. Dans ce que nous faisons, nous constatons que nous pouvons améliorer la vie, par exemple, de petits producteurs en Afrique, tout en séquestrant du carbone, parce qu'on va, par exemple, développer des modèles d'agroforesterie.
Parce que quand on plante des arbres,
gens,
ça capte du carbone.
Il y a du carbone stocké. Mmh. C'est l'argent des entreprises qui, à travers nos fonds, permet de financer ces grands projets. Bien sûr, si on voit ça comme un moyen de ne rien faire pour les entreprises, parce qu'en gros, elles ont de l'argent et elles achètent des projets sans rien faire, je suis bien d'accord avec cette critique. Mais si les entreprises font à la fois des efforts de réduction avec une vraie stratégie de réduction de leur empreinte carbone et d'autre part de la compensation. Et si cette compensation a vraiment des effets non seulement écologiques mais aussi sociaux, je ne vois pas en quoi ça serait critiquable.
Alain Carsanti, je rappelle que vous êtes économiste au CIRAD. Vous avez publié récemment une tribune dans Alternatives économiques intitulée « Climat, avion, forêt, les dessous de la compensation carbone ». Alors comment réagissez-vous à ce que vient de dire Bernard Giraud ?
Il y a un point mort dans le raisonnement de Bernard Giraud, disons. C'est qu'avant de parler de réduction et de compensation, il faut parler d'évitement. La séquence de toute compensation, c'est éviter, réduire et compenser. Et le problème de cette séquence, c'est que il est très rare que l'on évite vraiment. Alors éviter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est là que est la clé de la transformation des systèmes de production et probablement de nos modes de vie. Ça veut dire que, bien sûr, les entreprises disent on fait tout pour réduire. Mais beaucoup d'entreprises produisent des choses qui finalement sont socialement assez peu utiles. Bon, si vous prenez une entreprise qui fabrique des yachts de luxe, ou disons des voitures de sport, c'est pas très utile. Elle pourra toujours effectivement dire qu'elle met tout en œuvre pour réduire ses émissions, mais d'abord elle va peut-être produire beaucoup de yachts ou beaucoup de voitures de sport, donc elle va finalement émettre beaucoup tout en réduisant le coût unitaire, mais on a bien ce problème de la croissance derrière. Et à partir de là, on se peut se poser la question, c'est-à-dire que si on ne pense que de réduire et de compenser, on oublie complètement le premier terme de l'équation qui est le terme fondamental qui est d'éviter. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on doit produire ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est utile ? Et fondamentalement, c'est un des problèmes de la compensation, c'est que, bon, alors on pourra discuter, certaines entreprises effectivement font des efforts de réduction et compensent de manière, disons, leurs émissions résiduelles et marginales, mais beaucoup ne le font pas, d'une part, c'est ce que rappelait Gilles Dufra, ou notre collègue de CCFD tout à l'heure, et vraiment le problème, c'est la question de l'évitement. Donc ça c'est un point qu'il faut mettre en avant.
Myrto Tilianaki, vous venez justement de publier avec votre association CCFD Terre Solidaire un rapport intitulé « Tout sauf neutre, trois multinationales au service de l'inaction climatique ». Donc je le disais, hein, vous épiez ceux qui justement, contrairement à ce que disait Bernard Giraud, ne font pas l'effort de compenser, de diminuer surtout réellement et compensent massivement. Alors qui y a parmi les mauvais élèves chez vous là ?
Alors nous, au CCFD Terre Solidaire, on a décidé de prendre les trois secteurs le plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc énergie fossile, transport et agro-industrie. Et on a pris les trois entreprises en fait qui communiquent beaucoup autour de leur neutralité carbone. On avait vu un peu sur leur site qu'ils communiquent aussi beaucoup sur des projets de décompensation. Donc on a voulu voir en fait comment elles font, en fait, quelle est leur stratégie. Et contrairement à ce qui a été dit il y a quelques instants, on a vu qu'il y a très très peu de réduction d'émissions. L'effort est mis sur la compensation carbone. On a regardé donc Total Energy, Air France et Nespresso. Comme je mentionnais tout à l'heure, Nespresso qui parle de 5% de réduction d'émissions. Ouais. Total Energy qui ne parle pas de réduction d'émissions, mais de réduction d'intensité. C'est un autre calcul. On regarde la réduction des émissions de CO2 par rapport à une autre unité. Et donc, si la production augmente, les émissions augmentent. Donc, on est sûr de calculs très précis. Et on voit
Air France,
pareil, qui dit on va diminuer, réduire notre empreinte environnementale. Et quand on regarde les mesures qui sont mises en avant, c'est la digitalisation des documents pilotes. Donc, au lieu d'avoir de papier dans l'avion, on a des tablettes pour les pilotes. Ils vont mettre
Bernard Giraud.
Oui, tapis bagages électriques dans les aéroports et coupe de champagne verre recyclable en cabine business. Donc on s'en rend bien compte qu'il y a un grand problème quand même dans les efforts qui sont mis en avant. Tout ça dans le cadre d'une communication verte et entre guillemets vertueuse.
Non, ça nous fait sourire, mais c'est pathétique en fait. Gilles Dufresne, ça veut dire que payer un peu plus cher mon billet d'avion pour me déculpabiliser en plantant des arbres, en fait, ça ne sert à rien.
Je pense que pour beaucoup de crédits et de projets qui sont financés par ce système, en effet, ça a très peu d'impact. Ça ne veut pas dire que ça a zéro impact, mais l'idée, c'est vraiment que ça ne compense tout simplement pas les émissions qui seront émises par le vol qu'on va prendre. Donc, si je prends un vol Paris-Madrid ou quelle que soit la destination, ça a un impact sur le climat. J'émets du CO2, il y a toute une sorte d'autres impacts sur le climat. Et l'idée de dire, voilà, je vais payer pour des réductions autre part, c'est finalement une stratégie extrêmement risquée. Parce que le vol que je prends, il a un impact. Or, ces réductions que j'achète autre part, Je ne sais pas avec certitude quel est l'impact de ces projets. Il y a des bons projets, c'est certain. Il y a des entreprises qui utilisent ce système correctement, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de projets qui ne représentent pas du tout l'impact qu'ils sont censés représenter. Et donc, l'idée même de dire, voilà, finalement, ça n'a aucun impact est incorrecte. Et la seule vraie façon de réduire son empreinte carbone, c'est de ne pas prendre ce vol et d'adapter ses besoins de consommation.
Alors, vous disiez, il y a quand même des bons projets. C'est ce que nous avons observé lorsque nous sommes allés en Inde, au cœur de l'Andhra Pradesh, dans la vallée d'Araku. C'est là que vivent les Adivasis, les populations originelles de ce pays sous-continent, restées longtemps en marge du développement. Ces villageois participent depuis 10 ans à un ambitieux programme de plantation d'arbres, 6 millions en 5 ans, avec pour objectif de compenser les émissions de carbone des industries des pays développés. C'est l'un des programmes du fonds que vous avez créé, Bernard Giraud, du fonds Livelihoods. Alors écoutons ce qu'en pensent les paysans indiens et nous en parlons après. Pour l'instant, nous avons rendez-vous dans les champs avec Jean-Pierre Renaud, le directeur de la Livelihoods.
L'idée est la suivante, c'est que le carbone est un élément de mesure nécessaire dans des conditions qui sont des conditions théoriques souvent, qui sont des conditions assez scientifiques. Et ce que nous voudrions voir, c'est comment nous pouvons adapter cette mesure à un moyen qui permettrait aux populations qui ont planté ces différents arbres, des moyens qui leur permettent de savoir où en sont leurs plantations, dans quelles conditions sont-elles, et de mixer en fait cette problématique de la progression et la croissance d'un écosystème avec les exigences d'un système onusien, d'un système donc extrêmement rigoureux. Donc c'est tout le challenge de ce travail d'aujourd'hui.
L'ambition du projet Livelihood ici dans cette vallée d'Araku, c'est de planter 6 millions d'arbres en 5 ans, 3 millions d'arbres de café, 3 millions d'arbres fruitiers et d'arbres qui vont servir à du bois de coupe. On va aller voir maintenant comment la plantation est faite ici, dans le village de Turung Lameta. Nous allons poser la question à un couple de fermiers qui ont accepté de participer au projet Livelihoods et donc de planter ces arbres depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Narayana, je suis un fermier et je fais pousser différentes sortes de millets, des lentilles, des pois, du curcuma.
Et qu'est-ce que vous avez planté, vous ? Quelle quantité d'arbres avez-vous planté grâce à ce projet ?
On m'a donné 48 plants que j'ai mis en terre. J'en prends bien soin. Pendant la saison humide, il n'y a pas de problème. Mais pendant la saison sèche, je transporte l'eau du ruisseau en bas pour les arroser et être sûr qu'ils survivront.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce programme ? Est-ce que ça change quelque chose dans votre vie au quotidien ?
Oui, le programme est un réel bénéfice, parce que les fruits des arbres permettent de nourrir la famille, de partager avec d'autres gens dans les moments difficiles. Et le surplus, nous le vendons au marché. Pour nous, ces arbres sont essentiels.
Pour l'instant, il faut attendre au moins 2 ans ?
Oui, il va falloir attendre encore 2 ans.
Et l'objectif de ce programme Livelihoods, c'est de générer des crédits carbone pour que les entreprises du Nord puissent compenser leurs émissions de carbone. Est-ce que vous comprenez quelque chose à cette histoire de marché carbone et est-ce que vous savez ce que c'est que le carbone ?
Oui, je comprends un peu. Je sais que ce que je fais ici est bénéfique aux gens de la terre. Ça améliore la qualité de l'air et réduit la pollution.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler des changements climatiques, par exemple ?
Oui, nous comprenons le changement climatique, car nous le vivons. Les pluies n'arrivent plus au bon moment. Il y a des mauvaises récoltes, et même de temps en temps, des attaques de nuisibles. Donc nous comprenons que faire pousser des arbres est important. Ça va calmer le climat, améliorer la pluie et faire du bien à tout le monde.
Je m'appelle Gautam Chak Kravati et je suis le coordinateur du projet agricole de Araku.
L'un des objectifs du programme, et ça c'est assez nouveau, c'est de faire en sorte que ce soit les populations elles-mêmes qui contrôlent finalement la croissance des arbres et donc le carbone absorbé. Comment ça se passe ?
Nos équipes sont là pour donner un support technique aux agriculteurs, pour leur enseigner des techniques agricoles, biologiques et biodynamiques, comment fertiliser le sol, fabriquer du compost. Nous encourageons toutes ces activités. Certains disent que l'agriculture biologique est un retour en arrière, mais c'est en réalité un bond en avant. Nos équipes apportent également les connaissances techniques aux villageois dans la mesure de la séquestration du carbone. Les villageois ont appris à se servir des téléphones portables et du GPS afin d'enregistrer l'évolution de la croissance des arbres et leur localisation.
Donc en fait, quand vous recevez les données sur la croissance des arbres, vous déterminez le nombre de crédits carbone que cela génère.
C'est le programme 360 de Livelihoods. C'est une application créée par Nandi et déjà utilisée pour la production du café. Cette application a été modifiée et utilisée pour la surveillance du carbone.
Bernard Giraud, vous avez des projets comme celui-ci en Afrique, en Amérique latine, et donc là nous sommes en Asie. Alors on va rester sur ce projet-là. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la première phase du projet a été réalisée, c'est-à-dire que les 6 millions d'arbres ont été plantés. Et on a engagé un deuxième projet avec toujours la même association, la fondation Nandi, qu'on a entendu dans le reportage. Il faut préciser que ces projets sont sur 20 ans. Hein. Donc quand nous investissons avec la capacité de financement sur 20 ans. Et nous investissons des sommes qui sont importantes, puisqu'il s'agit de projets quand même d'assez grande ampleur, entre 2 et 6 millions d'euros pour un projet. Nous travaillons essentiellement avec des structures locales. Pourquoi ? Parce que ces structures locales sont très fortement ancrées dans les communautés. C'est le cas de Nandi, hein, on entend bien. Ils ont travaillé déjà depuis des années avec les Adivasis, ces peuples premiers de l'Inde. Et donc, ils ont la confiance. Hein. Et donc, c'est le type de partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous nous engageons sur longtemps. Et l'objectif, ce n'est pas de planter des arbres. En fait, c'est d'accompagner un changement systémique, c'est restaurer les sols, avoir de la culture et de l'agroforesterie, et pouvoir permettre à ces paysans de valoriser leur travail. Le café d'Arakou, aujourd'hui, il est exporté. Ces peuples étaient les plus pauvres de l'Inde. Aujourd'hui, ils vendent leur café en Europe, par exemple, à Paris, il y a un magasin à Paris. Mais il y en a également à Bangalore, etc. Donc, la question, ce n'est pas juste de planter des arbres. Lorsqu'on s'engage sur 20 ans, on s'engage sur l'accompagnement d'une communauté dans sa transformation. Et pour ça, on utilise effectivement des moyens financiers qui viennent des entreprises. Et moi, je ne conteste pas le fait qu'il y a beaucoup de produits ou de services qui ne sont pas fondamentaux pour l'avenir de l'humanité. Je suis bien d'accord avec mes collègues, mais il faut prendre les choses comme elles sont. Les entreprises existent, elles fabriquent, elles doivent à la fois réduire, mais si elles compensent en permettant aux gens d'Arakou de mieux vivre, quand on regarde la surface de la planète, quand on regarde les enjeux agricoles, quand on regarde les enjeux de pauvreté, je ne vois pas en quoi il faudrait opposer les deux démarches.
Alain Carcenti, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage et aux propos de Bernard Giraud ? C'est plutôt vertueux là quand même.
Oui, tout à fait. Il y a, disons que les flux financiers entraînés par la compensation carbone génèrent et peuvent générer de bons projets. Mais attention, on n'a pas attendu la compensation carbone pour faire des bons projets avec d'autres sources de financement ou autres. C'est-à-dire que... c'est un peu le problème, disons, de cette question de compensation. C'est que... Alors, il y a des questions d'efficacité. Pour véritablement neutraliser une émission de CO2, il faudrait que les arbres qui soient plantés par ce projet ou par n'importe quel autre projet restent sur pied, stockent du carbone pendant des siècles et des siècles, voire il est très clair qu'aujourd'hui, avec tous les risques d'incendie, de maladies, etc., enfin, vu le mauvais état en général des forêts dans le monde, qui ne fait que s'aggraver avec, en plus, l'augmentation des températures, des sécheresses et des incendies, ce carbone qui est stocké va repartir dans l'atmosphère probablement un jour ou l'autre. Pas forcément, il y a des arbres qui vivent très longtemps. Mais donc, on a un problème, ce qu'on appelle de non-permanence. Ça, c'est assez difficile de résoudre le problème. Ensuite, ces arbres vont mettre du temps à pousser. Apparemment, il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, les arbres fruitiers, ça ne stocke pas beaucoup de carbone. Ça va prendre un peu de temps. Et là, on a des échéances qui sont vraiment très, très rapprochées pour éviter pour éviter de passer au-dessus d'un degré et demi, deux degrés de température. Donc, Le problème, c'est qu'on peut avoir de bons projets. Le problème, c'est que si on regarde maintenant d'un point de vue macro, du point de vue de l'intégrité environnementale, eh bien, l'utilisation de la compensation carbone ne donne pas de garantie d'intégrité environnementale sur le stockage à long terme du carbone et sur réellement l'efficacité en termes de compensation. Donc, on peut avoir de bons projets, mais l'utilisation massive de la compensation carbone va sans doute poser un problème du point de vue de la lutte contre le changement climatique au niveau global. Donc, c'est un instrument qui est ambigu.
Gilles Dufrane, comment est-ce que vous réagissez à ce programme dans la vallée d'Arakou?
Oui, je pense que c'est présenté comme ça, le projet a en effet l'air d'être un bon projet, et avoir un projet qui a un impact bénéfique sur les communautés locales, c'est toujours une des premières priorités, je pense, au niveau du type de projet qu'on voudrait encourager. Mais je rejoindrai complètement M. Corfanti sur les commentaires qu'il a émis quant à aux problèmes liés à la non-permanence et le fait que voilà, on stocke du carbone dans les arbres, on ne sait pas combien de temps ce carbone va rester dans les arbres, ou plutôt on ne sait pas combien de temps les arbres vont rester vivants. Et donc la question n'est pas vraiment de savoir si c'est un bon projet ou un mauvais projet, ça a l'air d'être d'être un très bon projet, et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont des bons projets. Le problème, c'est l'impact climatique réellement généré par ce projet est incertain. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autoriser des grandes entreprises ou des entreprises très polluantes d'utiliser ou d'exagérer les bénéfices de ces projets et de dire, ben voilà, finalement, c'est pas grave si on exagère un peu et qu'on dit que ça compense les émissions tant qu'on a de l'argent qui va vers ces projets. Je pense que c'est là qu'est le problème. Oui, on a besoin de finances qui vont vers des projets climatiques, mais il faut prendre en compte le revers de la médaille et le fait que faire de la compensation de cette façon encourage à maintenir le statu quo. Et donc, je voudrais revenir aussi juste sur le point de dire, voilà, de toute façon, les entreprises produisent aujourd'hui et on ne peut pas décarboniser totalement du jour au lendemain, etc. Donc, autant continuer. Mais il faut prendre aussi en compte le fait que l'utilisation de ces crédits carbone est un argument par ces entreprises pour ne pas mettre en place d'autres politiques et des mesures plus contraignantes. Et donc, bien sûr, on ne va pas décarboniser du jour au lendemain, mais on n'a pas appris l'existence du changement climatique la semaine dernière. Ça fait depuis des décennies qu'on est au courant de ce problème et ça fait depuis des décennies que des grandes entreprises, notamment les grandes entreprises pétrolières, investissent massivement dans la désinformation et dans le lobby contre la réglementation. Et donc, c'est un petit peu facile pour ces entreprises aujourd'hui, d'une part, investir énormément dans le lobby et de s'opposer à des tas de politiques climatiques qui auraient un réel impact systémique, et à côté de ça, dire « Ah, regardez comme nous sommes vertueux, nous achetons des crédits volontaires ». Donc oui, financer des projets climatiques, c'est très bien. Mais par contre, je pense qu'on doit vraiment évoluer la façon dont c'est communiqué au niveau des entreprises.
En tout cas, ce type de projets sont appelés à se multiplier suite à la COP26 qui vient de se dérouler à Glasgow. Pourquoi et faut-il s'en réjouir? Nous allons faire le point avec nos invités. Mais pour l'instant, Marcel et son orchestre chantent. Ben, au moins eux, ils chantent le CO2.
Mes déclarations ont fait sensation.
Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant.
Faut pas non plus faire peur aux investisseurs. Le réchauffement doit pas empêcher la croissance.
Me
montrez pas du doigt ce plan industriel. Je me plie déjà en réglementation. Beaucoup de pays sont moins tatillons.
Réduire les gaz à effet de serre, je vous jure d'y réfléchir.
J'ai rien compris.
Mais mon résultat ne doit pas en pâtir.
Je dois satisfaire l'envie des actionnaires. L'installation d'une usine de retraitement pourrait m'obliger à délocaliser ce monde est sans scrupules. La concurrence est dure.
Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi,
on fait pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Il y a encore monté cheval.
comptable, dit le scientifique. Mon boulot c'est de chercher, pas de contrôler comment mes travaux seront utilisés.
Voyez l'état de la recherche, quand le pouvoir s'en lave les mains, on mesure pas les conséquences et c'est la nature qui paie la facture.
Qui a fait un trou dans le sol?
Je suis pas décideur, appelle citoyen. Vous nous invitez à consommer différemment, mais faudrait encore en avoir les moyens.
J'ai pas fait des économies, un crédit pour ma nouvelle voiture, et la laisser au garage pour m'entasser dans les transports en commun.
On nous fait préférer les produits emballés, hygiéniques, esthétiques, carrément épatants. Paradoxalement, nous devenons coupables, irresponsables par nos choix polluants.
Pas de planète sans casser de CO2. On fait pas de planète sans casser de CO2.
Qu'est-ce qu'il dit le monsieur?
Pas de planète sans casser de CO2.
Les grands, ils font n'importe quoi.
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Le CO2 par Marcel et son orchestre dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Que vous soyez convaincu ou non par le principe de la compensation des émissions de carbone, ce principe va se développer massivement dans les années à venir, notamment suite aux décisions qui ont été prises récemment durant la COP26 à Glasgow. Vous y étiez et vous suivez ce dossier, Gilles Dufresne, pour votre association Carbon Market Watch. Il s'agit de l'article 6 de l'accord de Paris. Alors expliquez-nous.
Alors l'article 6 de l'accord de Paris, c'est essentiellement un article qui autorise les pays à échanger des réductions d'émissions entre eux. C'est-à-dire qu'un pays qui aurait un objectif climatique, disons de réduire 100 tonnes de CO2 une certaine année, on prend un exemple au hasard, au lieu de réduire toutes ces tonnes sur son propre territoire, il pourrait réduire une partie dans son territoire et payer un autre pays qui lui réduira plus que son objectif et acheter ces réductions. Donc, par exemple, le pays qui devait réduire 100 va réduire uniquement 80 tonnes et un autre pays qui devait réduire 100, il va réduire 120. Donc, ces 20 tonnes seraient vendues à celui qui n'a pas réduit assez et donc lui qui n'a pas réduit assez paierait une certaine somme d'argent au pays qui a réduit au-delà de son objectif. Ça, c'est l'idée vraiment de base de dire, voilà, des pays peuvent échanger des réductions d'émissions et cet article pourrait s'étend également aux entreprises dans le sens où les réductions d'émissions qui donc aboutissent sur la génération de crédits carbone, les fameux crédits de compensation, pourraient aussi être achetés par des entreprises privées et donc on revient dans cette logique de compensation au niveau des entreprises. Et c'est un petit peu un cadre réglementaire, quelque part, qui a été adopté.
Oui, ce sont les règles de mise en œuvre donc, de cet article 6. Alain Giraud, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour un fonds comme le vôtre?
Je crois que c'est bien que des règles soient définies. C'est clair que le marché volontaire est relativement récent. Il a besoin d'être plus structuré, plus transparent, ça a déjà été dit. Et le fait que les États se soient mis d'accord sur un cadre qui va s'imposer progressivement à l'ensemble de la planète est plutôt positif. Après, il faudra voir comment tout ça va se mettre en œuvre. On n'a pas encore une vision extrêmement précise des modalités. Mais le fait de définir un cadre, et je pense aussi qu'on devrait pousser pour que les projets qu'on appelle de compensation soit des projets qui aient une véritable valeur, non seulement climatique, mais aussi écologique au sens large. Par exemple, la biodiversité. Quand on parle de reforestation, on peut planter de la monoculture de telle ou telle espèce, mais on peut aussi faire des forêts diversifiées qui bénéficient aux populations locales. Dans les deux cas, c'est du carbone, mais l'impact pour la planète n'est pas le même.
Par exemple, c'est ce que vous faites au Rwanda.
Oui, bien sûr. Le problème, ce n'est pas de replanter des milliers d'hectares d'eucalyptus ou je ne sais quoi pour faire du carbone. Ce n'est pas ça. On a 27 000 petits fermiers. Les collines sont extrêmement dégradées. L'érosion est très forte en période des pluies. Le gouvernement du Rwanda, avec une ONG locale, nous a demandé de faire un travail, effectivement, avec des petits fermiers qui ont en moyenne un hectare par ferme. On investit donc dans ce projet, quand on dit on investit, c'est qu'on aide ces fermiers à développer des modèles d'agroforesterie, de restaurer les sols et aussi de mieux vivre de leur travail avec des coopératives, des systèmes de d'écoulement des productions. Bon, bah, ça, c'est de la compensation, mais c'est de la compensation qui a de multiples bénéfices. Donc, je pense que les États et les pouvoirs publics doivent pousser dans ce sens. La compensation, c'est un peu comme, c'est comme la circulation routière. Hein. C'est pas parce qu'il y a des chauffards sur la route que toute la circulation routière doit être interdite. La compensation, il y a le pire et le meilleur. Comme chez les ONG, alors, il y a le pire et le meilleur. Comme dans les États, les gouvernements, il y a le pire et le meilleur. La question, c'est de savoir quelles règles on se donne et comment on les fait respecter.
Alain Carsentier, est-ce que les pays du Sud, je pense notamment aux pays du bassin du Congo, pourront tirer des bénéfices de cet article 6 de l'accord de Paris?
Alors ça reste à voir. Disons que une des choses qui a été faite dans l'article 6, enfin, il y a deux choses qui sont importantes. C'est surtout que si on ne peut, dorénavant, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un pays décide de vendre des crédits carbone qui ont été générés sur son sol, y compris par un projet, il devra, effectivement, il ne pourra pas utiliser ces réductions d'émissions qui ont été transférées à l'étranger, donc vendues, pour son propre bilan national. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui vont se retrouver devant un dilemme, c'est-à-dire de savoir si on conserve effectivement ces crédits carbone pour pouvoir les afficher à son bilan national et être crédible, et avec un certain nombre d'autres conséquences, ou est-ce qu'on les transfère à l'étranger, ou on autorise le transfert à l'étranger si ce sont des projets qui les vendent à l'étranger.
Le Brésil a notamment beaucoup bataillé sur ce sujet à la COP26. Oui.
Voilà, et là, ils ont fait un compromis, ils ont fini par accepter qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le double comptage. Donc, c'est effectivement très important. Alors, donc ça veut dire que, y compris maintenant, et ça, c'est un changement fondamental par rapport à ce qui s'est passé auparavant avec le fameux mécanisme de développement propre où, bon, là, finalement, ce problème de double comptage n'existait pas. Et donc là, il va y avoir des choix à faire pour les pays et on ne sait pas exactement quelle va être la part de ce qui va rester de marché purement volontaire, c'est-à-dire dans lequel il n'y aura pas ce qu'on appelle d'ajustement, c'est-à-dire qu'on pourra effectivement, les firmes pourront échanger, des projets pourront vendre à des firmes un peu partout sans conséquence sur le bilan carbone national d'un pays. Ça, c'est la partie un petit peu marginale qui va être le marché carbone volontaire, qui maintenant est bien identifié et qui, finalement, est en dehors de ce fameux article 6 et qui va pouvoir fonctionner de manière indépendante. Alors, l'autre point, si j'ai encore une seconde...
Une minute.
Non, c'est simplement que les projets forestiers, les projets qu'on appelle RED+, donc de réduction d'émissions, ont été pour l'instant exclus de l'article 6. C'est-à-dire que ça, c'est un point important. Tous les projets, toutes les réductions d'émissions qui ont jusqu'à présent fonctionné avec un accord particulier ne pourront pas être utilisés dans cet article 6. Donc ça, c'était un peu une défaite pour un certain nombre de pays qui avaient bataillé pour que les crédits RED+ soient effectivement éligibles. Ils ne le sont pas pour le moment. Ils pourront l'être effectivement à l'avenir, mais avec effectivement des règles particulières qui... Alors, l'un des problèmes, c'est que pour les pays africains, c'est que très probablement ce qu'on appelle la déforestation évitée, c'est-à-dire le fait de dire on pourrait... les prévisions, c'est qu'on va déboiser plus, mais on va déboiser moins que prévu. Ça, probablement, ça ne pourra pas passer parce qu'il y a une forte opposition de l'Union européenne d'un certain nombre d'autres pays. Donc ça, par rapport à des pays qui aujourd'hui ont peu déboisé et qui avaient anticipé de déboiser beaucoup, mais aller dire nous allons déboiser moins que prévu, c'est probablement quelque chose qui ne passera sans doute pas, même à la prochaine COP.
Myrto Tilianaki, vous au CCFD Terre Solidaire, je disais, vous êtes vigilant sur tout ça. Quels sont les points de vigilance suite à l'adoption de cette... Enfin, l'adoption, cet article 6 avait été adopté en 2015 à Paris, mais on va dire avec les règles qui vont être appliquées à partir de maintenant, qui ne sont pas tout à fait encore définies, mais on voit bien que ça se précise.
Tout à fait. Donc, il y a tout le volet un peu de comptabilité, tout le volet du contrôle de projet et de l'élaboration de projet qui vont être mis en place, comme mentionné par Gilles Dufrane et Alain Carré. Ressenti. Donc il faudra voir en fait la qualité de ce projet par rapport à tous ces critères qui ont été mentionnés, double comptage, etc. Mais il y a également un volet droits humains qui est très important. Donc respect et promotion de droits humains et droits de peuples autochtones.
Les peuples autochtones étaient vraiment présents. très présents à la COP26. Donc, pas assez par rapport aux autres années, mais enfin ceux qui étaient présents en tout cas se sont beaucoup mobilisés contre cet article-là.
Tout à fait. Et en fait, il y avait une demande très forte de la part de la société civile et de représentants de peuples autochtones pour mettre dans le texte de l'accord de Paris la création d'une instance indépendante qui va permettre le dépôt des plantes, parce que ça n'existait pas auparavant. Il y a eu plein de projets de mécanismes de développement propre et autres qui ont porté atteinte aux droits humains. Et quand j'ai dit « ont porté atteinte aux droits humains », ça veut dire qu'ils ont interdit l'accès à des communautés qui se trouvaient à proximité de projets de compensation. Ces communautés-là n'ont pas pu avoir accès à leurs terres, ont perdu leurs moyens de subsistance. Il y a eu des phénomènes d'accaparement de terres. Bref, plein d'impacts négatifs. Et donc, ces communautés-là n'ont pas pu avoir recours en justice. Et donc, c'était une forte demande pour ce nouveau texte d'avoir du langage fort. On ne l'a pas eu finalement dans le texte, mais on a eu quand même cette instance indépendante qui permettra le dépôt des plaintes. Donc, on va être vigilant dans l'avenir. On va voir comment les projets seront mis en place et si les droits humains et le droit de peuples autochtones seront respectés.
Et Gilles Dufrane, il y a un problème de justice climatique aussi, puisque en fait, ce ne sont pas les plus pauvres et les plus impactés. Je pense notamment aux pays africains qui ont bénéficié massivement de ces marchés carbone. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les émergents, c'est-à-dire la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud.
Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on a observé sur la mise en place de ces marchés jusqu'à aujourd'hui, avec seulement environ 3% des projets mis en place sous le précédent marché carbone qui ont été mis en place sur le continent africain. Donc c'est très peu, alors qu'une énorme majorité des projets a été mis en place dans seulement 3 pays, la Chine, le Brésil et l'Inde. Et donc finalement, les pays les plus pauvres, et notamment beaucoup de pays sur le continent africain, ont assez peu bénéficié de ces marchés carbone. Et une des raisons, c'est parce que le marché est assez complexe et technique. On s'en rend compte dans les discussions qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment pas évident pour une petite ONG locale ou même une entreprise de taille moyenne locale de comprendre voilà, comment fonctionne ce système, qu'est-ce que c'est un crédit carbone, comment est-ce que je peux mettre en place un projet et le faire certifier et labelliser. Et donc, encore une fois, on revient un peu à la question de la nécessité et la demande pour des entreprises, surtout en Europe et aux États-Unis, de vouloir avoir ces crédits avec une garantie que ça représente une tonne de CO2 afin de pouvoir faire leur campagne de publicité. Finalement, c'est ça aussi qui porte un frein à la mise en place de projets. On pourrait avoir des très bons projets qui seraient potentiellement un peu plus simples dans leur mise en place, et qui serait financé par les entreprises sans forcément que les entreprises veulent se dire neutre en carbone, veulent avoir un impact vérifié de façon très précise. Après, tu as évidemment un bénéfice de mesurer les impacts. Je pense qu'il faut mesurer les impacts. Mais cette logique de vouloir générer des crédits carbone qui peuvent être échangés, et parfois il y a aussi de l'investissement et de la spéculation sur ces crédits carbone, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure logique pour distribuer de la finance climatique. Et ça contribue au fait que ça rend l'accès à cette finance plus compliquée pour des petites organisations ou des communautés locales.
En tout cas, on l'a bien compris, hein, c'est complexe. On est au début de l'histoire. Il y a des points de vigilance à avoir. Il y a aussi des beaux projets qui peuvent naître. Mais il faut en effet être surtout extrêmement vigilant sur la manière dont cela est fait et sur le fait que l'essentiel, hein, c'est vraiment de réduire les émissions et pas uniquement de compenser. On l'a bien compris à travers vos différents propos. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci aux équipes techniques de France Bleu Montpellier qui ont permis le duplex avec Alain Carsenti. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir ou nous poser des questions par mail cestpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.